Bien, on va essayer de travailler sur des shiurim de Rav Volbe. C'est une suite de shiurim sur un thème qui s'appelle Olam Barur, un monde clair. Dans la tfila du matin, nous disons Kulam Ahuvim, Kulam Brurim, Kulam Giborim. On parle, c'est une partie de la tfila où on parle des malachim, on parle des anges en fait. On dit ils sont tous Ahuvim, tous aimés, tous clairs, tous puissants. Un malach qui est clair, un ange qui est clair, totalement transparent, c'est-à-dire dans toutes ses actions, dans toutes ses intentions. Les malachim ils sont comme ça, ils sont absolument transparents. L'homme, lui, au contraire, il est loin de l'être. Au point que l'homme lui-même ne sait même pas, souvent, il ne sait même pas d'où lui viennent ses désirs, ses volontés. Et on ne sait même pas non plus exactement, quand on agit d'une certaine manière, on ne sait pas toujours, en fait, quelles sont nos motivations. Le Olam Hazeh, ce monde-ci, le monde dans lequel nous sommes, il est appelé un monde qui ressemble à la nuit. Il est comparé à la nuit. Le Mesilat Yesharim, Cheikh Aminu Tzato, explique que c'est très connu que dans l'obscurité de la nuit, on fait deux erreurs, ça nous amène à faire deux erreurs, à se tromper de deux manières. C'est-à-dire, ou bien on ne voit pas ce qu'il y a de ce qu'on a devant soi. Ou alors, on voit quelque chose et on se trompe sur cette chose. On voit un poteau, on le prend pour un arbre, on le voit, etc. En fait, l'épaisseur du monde dans lequel nous sommes, la matérialité, la corporealité, etc., dans le monde dans lequel nous sommes, est du même ordre. Rashi dit que, sur le verset qui dit « Va'aretz haïta tohu vavohu » que la terre était, Rashi sur le premier psukim de la Torah, que la terre était dans un état de tohu, Rashi dit que c'est étourdissant, étourdi. La terre était comme quelqu'un qui est groggy, qui est complètement étourdi, comme si, en fait, le monde, lorsqu'il a été créé, on lui avait injecté un somnifère, en fait. Quelque chose qui le rend d'une certaine manière insensible et aussi incapable de voir les choses clairement. Parce que le Rambam dit il dit Rov ma'aseim tohu, la majorité des actions de l'homme sont du type tohu, c'est-à-dire il agit comme s'il était à moitié endormi. Les actes ne sont pas des actes clairs. Ce monde, donc, qui est un monde étourdi, disons, il nous inclut, nous aussi, évidemment, il inclut nos pensées, il inclut aussi la façon dont nous faisons nos mitzvot, dans la façon dont nous servons Hachem. Il est inutile de décrire le manque de clarté du monde autour de nous, toutes les erreurs, tous les aveuglements. C'est clair que, a priori, le but du monde, c'est pas de rester dans cet état-là. Le but du monde, c'est que l'homme fasse sortir le monde de cet état-là. Et donc ce travail de clarification, qui est en fait le tikkun, l'arrangement du monde, dans tous les domaines, jusqu'à ce que on puisse dire, comme on le dit sur le malach, sur l'ange, on peut le dire sur les anges, kulam brurim, qu'on puisse dire sur les hommes, qu'ils sont aussi brurim, aussi clairs. Les mishpatim de la Torah, les lois de la Torah et toute la Torah est là pour nous permettre de sortir de cet état, permettre d'accéder à cet état de à cette clarification. Sur le pasuk Va'asita Choshen Hamishpat, dans le vêtement du Kohen Gadol qui s'appelle le Choshen, fera le prochain du Mishpat. Rashi explique ce que c'est le mot Mishpat, le jugement. C'est chez Mevarer Dvarav Ve'aftachato Emet. Ce qui permet de clarifier les paroles et du coup les promesses qui viennent, les engagements sont de véritables engagements. Donc Mishpat, c'est justement cette idée de la clarification. Les mishpatim de la Torah sont les règles, les outils en fait, avec lesquels on doit clarifier toute situation, régler tous les problèmes, totalement. Arriver jusqu'au bout du règlement de tous les problèmes. C'est ça la Torah. Et évidemment, tout celui qui étudie la Torah, il a envie d'arriver à cet état de clarté. Il voudrait être au clair. D'abord sur un certain sujet, puis ensuite sur d'autres, de façon plus générale. Sur toute le Maseret, sur tout le Shas, sur toute la Torah. Il y a bien entendu... Par exemple, dans la prophétie, il y a plusieurs niveaux. Rabbi Shimon ben Azai disait « Matsati Megillat Yursin b'Yerushalayim » J'ai trouvé à Yerushalayim un rouleau qui recense les gens qui disent d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, etc. Et dans ce rouleau, il est écrit que Menaché, le roi Menaché, harag et Yeshaya. Il a tué le prophète Yeshaya. Alors Rava a dit, Midan Dainé Vekatlé. Il dit non, il ne l'a pas tué, il l'a jugé et il l'a tué. C'est pas qu'il l'a tué comme ça, sans jugement. Il l'a jugé et il l'a tué. Il lui a dit, il a dit à Yeshayahu, Moshe Rabcha Amar, ki lo irani Adam Vachai. Le roi Menaché, qui était un roi idolâtre, s'il n'y en avait jamais eu, 13, c'est l'enfant que Chizkia ne voulait pas avoir, tellement il était idolâtre. Il a dit à Yeshayahu, il lui a dit, Moshe, ton maître, a dit dans la Torah qu'il oirani à Adam Vachai, l'homme ne peut pas me voir, dit Hachem, et vivre. Un être vivant ne peut pas voir Hachem. Veat, et toi, tu dis, Vaeret Hachem, tu dis que tu as eu une vision, j'ai vu Hachem, Al Kise, Rom Venissa, j'ai vu Hachem sur un trône élevé, etc. contradiction, je te tue. Tu dis le contraire de ce que Moshe a dit. Alors, la Gemara discute, puis ensuite elle dit, mais effectivement, il y a quand même une contradiction quand même. Parce que, d'accord, il ne fallait pas le tuer, etc., mais il y a une contradiction, comment on résout la contradiction? Il dit, parce qu'on a appris que tous les prophètes ont prophétisé, ça s'appelle Baspaklaria chez Enameira. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient avec une lunette, mais une lunette qui n'est pas vraiment éclairée. Moshe Rabbeinu, lui, il voyait avec Baspaklaria Ameira. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, voyait absolument clairement les choses. Les prophètes ne voyaient pas avec la clarté avec laquelle Moshe Rabbeinu voyait. Et le Ramban, il dit, Al derech ha'emet, il dit Al pi kabbalah, dit le Ramban, le verset, il faut l'entendre kifshuto, il faut l'entendre au sens obvi du texte. Yomar ani Hashem nireiti lahem baspaklaria. Shelkel Shakai, Kitam, le marais, Elav et Vada. Donc, moi, je me suis montré à eux d'une façon pas complète. Mais, Voti, Ani Hashem, Lonodati, Lahem, Shelon Istaklou, Bas, Paklaria, Meira, Sheyadou, Oti, Ketam asher yadu, shiyado Hashem panim el panim, panim el panim, etc. De quoi on parle ici? Le Ramban parle au début de Parashat Vaera. Quand Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, à la fin de la parasha précédente, Hashem a envoyé Moshe Rabbeinu pour qu'il intervienne auprès de Paro, pour que Paro, en disant à Paro, tu dois renvoyer, laisse partir mon peuple. Et comme tout le monde sait, la situation des Bnei Israël s'est aggravée à ce moment-là. Paro a donné encore un tour de vis supplémentaire. Alors Moshe Rabbeinu s'est plaint auprès d'Hachem. Il a dit, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Pourquoi tu m'as envoyé faire du mal à ce peuple, etc. Et alors Hachem lui a dit, c'est malheureux qu'on doive en venir à toi, que je doive passer par toi. Les avotes, les patriarches, eux, je ne me suis jamais vraiment montré à eux. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont jamais vu dans la réalisation des promesses. J'ai promis, ils n'ont jamais vu le commencement du début de la réalisation des promesses. Toi, je t'ai annoncé que commençait la période de réalisation, et parce que ça ne va pas exactement comme tu crois que ça doit aller, je te mets tout de suite à... C'est malheureux de devoir en passer par toi. Alors le Ramban explique justement. Qu'est-ce que ça veut dire que les Avot, ils n'ont pas vu comme Moshe Rabbeinu? Effectivement. Les Avot n'ont pas vu. Hachem ne s'est pas présenté à eux en quelque sorte. Dans toute sa gloire, avec toute sa... Ils n'ont pas tout vu. Moshe Rabbeinu, lui, il a vu beaucoup plus. Panim el panim, face à face, etc. Alors, on peut expliquer. Donc, Moshe Rabbeinu n'utilise plus le même nom divin, El Shakai, que les Avot, parce que la Torah, Bishmo Gadol Nitna, dit Rambam. La Torah, elle a été donnée avec le grand nom d'Hachem, avec le tétragramme. Et donc Moshe Rabbeinu utilise le tétragramme, il n'utilise plus le même nom divin que celui qu'utilisaient les Avot de Shakai. Donc on voit que même dans la prophétie, il y a aussi des niveaux de clarté en quelque sorte. Des niveaux de totalement éclairé et pas totalement éclairé. Tous les prophètes, à l'exception de Moshe Rabbeinu, ils voient tous de façon imparfaite, si vous voulez. La nevoie, leur prophétie est vraie. Mais ils ne voient pas complètement. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il voit avec une clarté absolue les choses. Mishmo Agadol, avec le nom divin lui-même, pas avec un autre nom qui n'est pas aussi haut. Le nom divin, le tétragramme, c'est le nom le plus élevé. Il y a d'autres noms divins qui sont aussi des noms avec toute la Kedusha, mais n'ont pas le même degré de Kedusha, pas le même degré de clarté, par exemple. La Torah, elle a été donnée justement avec toute cette clarté. La Torah est donc une clarté telle que après la Torah, il n'y a plus de chosher, il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de ces fantasmes ou ces choses qu'on voit et qu'on croit voir, etc. Mais dans la Torah elle-même, il y a aussi des niveaux. Il y a ce qu'on appelle Mishnah Brura. Il y a un enseignement absolument clair. Il y a une notion de Halakha Brura. La Halakha, la façon de se conduire, qui est absolument claire. Et dans la Torah, il y a les deux choses. Mais il n'y a pas partout à la fois Mishnah Brura et Halakha Brura. Pas partout un enseignement absolument clair et une halakha absolument claire. Sur le pasouk de la paracha qu'on a lu ce Shabbat, sur Shoftim Veshotrim, la Gemara, le Midrash, pardon, rapporte, Rab Levi, il dit, le Mahadavar Domé, à quoi est-ce que ça correspond? C'est un roi, il avait de nombreux enfants, et le plus jeune d'entre eux, il l'aimait tout particulièrement. Il avait aussi un verger. Et il aimait beaucoup ce verger. C'était la chose qu'il préférait de toutes ses possessions. Ce verger était la chose la plus précieuse à ses yeux. Alors le roi a dit, je vais donner ce verger que j'aime, plus que toutes mes autres possessions, à l'enfant, à mon enfant, à l'enfant que j'aime le plus de mes enfants, parmi mes enfants. De la même manière, dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu a dit, parmi tous les peuples que j'ai créés, je n'aime qu'Israël. C'est marqué, Kinar Israël, ve oaveu. Israël, je l'aime. Et de tout ce que j'ai créé, je n'aime rien autant que le din, que la loi. C'est marqué Ani Hashem Ohev Mishpat. Nous disons nous aussi dans la Tfila Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat. Hashem est un roi qui aime le Mishpat, la justice. Amar Kadosh Baruch Hu Noten Ani Mashe Ahavti La'am Shani Ohev. Je donne ce que j'aime au peuple que j'aime. C'est ça, Shoftim Veshotrim Titen Lecha. Akadosh Baruch Hu aime, dit le Midrash, le Mishpat plus que tout ce qu'il a créé. Ça veut dire que la clarification à laquelle on accède grâce au Mishpat, cet outil de clarification, Hachem l'a donné au Bnei Israël pour construire un monde clair. Et lo asachen lechol goy, mishpatim bale daoum. Ça, il ne l'a pas fait pour les autres peuples, il ne leur a pas fait connaître ces mishpatim. Les mishpatim existent aussi, les homot haolam, les peuples, ont une obligation de définir des mishpatim, des lois. Ils ont une obligation. Mais leurs lois sont des conventions. Et ces conventions-là, elles n'enlève pas la totalité de l'obscurité et du brouillard dans le monde. Il reste toutes sortes de... Bien placé, on entend beaucoup parler de ça. Il reste de l'obscurité, du brouillard, du flou dans le monde. Ça, c'est la Torah. Rabbi Yosef, le... Mais non, chez le Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara a dit qu'un jour il est tombé malade, il est tombé dans les pommes. Et quand il est revenu à lui, son père lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Tu étais dans les pommes, qu'est-ce que... Amarle, Olam Hafouch Raiti. J'ai vu un monde à l'envers. J'ai vu ce qui était en haut était en bas, et ce qui était en bas était en haut. Alors il lui a dit, Béni, Olam Bahur Raïta. Il a dit, mon fils, tu as vu un monde clair. Ça veut dire quoi? Il semble que, d'après ce qu'il lui a dit, que le monde clair, il est exactement le contraire du Olam Hazé, de ce monde-ci. Toutes les valeurs là-bas ont l'air d'être inversées. Il semble que les yeux naturellement voient les choses à l'envers. Seulement, c'est comme ça qu'un enfant voit les choses aussi quand il naît. Mais le cerveau, en quelque sorte, fait un travail pour remettre les choses en place. Mais le monde du Emet, effectivement, c'est ce monde inversé, en fait. Ce qui est, en fait, ce qui est montagne, là-bas, et vallon, etc. Moralement aussi. Ça, c'est ça le monde clair. Alors, il lui a dit, Ve'anan Echiatam, et nous, où on était là, dans ce monde-là, nous qui étudions la Torah, etc., où est-ce qu'on est dans ce monde que tu as vu là? Il lui a dit, eh bien, nous sommes là-bas comme ici. Ou plutôt, nous sommes ici comme là-bas. Nous, qui nous occupons de Torah, nous sommes déjà dans l'état dans lequel on est quand on appartient au monde de la clarté. Et il dit, Veshamati Omrim, j'ai entendu que on disait, Ashre Misheba Lekan Betalmudo Beyado. Heureux celui qui arrive ici, il a son enseignement, ce qu'il a enseigné, il l'a en main. Donc ça veut dire ici, cette Gemara dans Masechet Psachim, elle enseigne que le Talmid Chacham, le sage, celui qui a étudié la Torah, il vit ici aussi déjà dans un monde clair. C'est-à-dire, il sait ce que sont les vraies valeurs. Et c'est ça le sod de Talmud, de la Gemara, etc. De créer un monde clair. Ashrei mi sheba lekan Talmudo biyado. Celui qui vient avec Talmudo biyado, ça veut dire, il vient et il a déjà. Pourquoi est-ce qu'il est heureux? Parce qu'il n'a pas besoin de se chambouler complètement. Il est déjà dans la bonne position, en quelque sorte. On voit donc que le but de la Torah, c'est de clarifier le monde jusqu'à le construire un monde totalement clair. Donc le tikkun du monde, de ce monde du Tohu, de ce monde étourdi, etc., ça consiste justement à aller jusqu'au bout de la clarification. Et donc le travail de l'homme, c'est un travail de clarification. Et c'est pour ça que on dit « En bor yorechet, v'lo amaretz chassid ». Si l'ignorant crasse, il peut pas, en fait, il peut pas craindre la faute. Il ne peut pas être pieux, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas, on ne peut pas. Ce n'est pas naturel. C'est obligatoirement le produit d'une étude. De soi-même, on n'y arrive pas. Puisque pour craindre la faute, faire attention de ne pas fauter, il faut être au clair. comme dit le Messilat Yesharim, que le fondement de la piété, la racine de toute la avoda, sheyitbarer veyitamet etzel adam, etc. Que les choses se clarifient, soient claires chez l'homme, qu'elles soient. Alors même si on ne sait pas exactement ce qu'est le Emet, la vérité, on ne sait pas non plus. Le Emet, c'est quelque chose, la vérité, c'est quelque chose de tellement élevé. Mais on a néanmoins l'obligation de clarifier. Et c'est ça notre travail. Notre travail, c'est un travail de clarification.
La clarification, c'est savoir.
Alors, c'est, la clarification, c'est d'acquérir un savoir qui va nous permettre de lire le monde et éventuellement de transformer, évidemment.
De le décrypter quelque part pour avoir... Ouais.
Dans Teilim, David HaMelech dit « Mi ya'aleh bar Hashem ou mi yakum mimkom kodcho » Qui est-ce qui montera sur la montagne d'Hashem et qui se tiendra dans son saint endroit ?« Neki chapaim » Celui qui aura les mains propres, en fait, ouvar les vaves. Et celui qui aura un cœur clair, bar, clair. Et on dit, Zé Moshe. Shaya mevarer asakav besha, shamar le akadosh bouch, shelech bishlichuto shel el paro. C'est Moshe Rabbeinu, qui en fait a clarifié les choses au moment où Hachem l'a envoyé chez Paro. Le Ramban explique qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a essayé de clarifier les choses jusqu'au bout. Il a eu peur qu'on lui demande « Mashmo, qui est-ce qui t'envoie ? Quel est le nom de celui qui t'envoie ? Tu viens parler au nom de... Tu dis quelqu'un, je parle au nom... Comment il s'appelle ? Quel est son nom ?» Alors, en fait... La Gemara, Hazal, l'explique qu'en fait, le problème de Moshe Rabbeinu, c'était pas tellement qu'est-ce que je vais dire si on me pose la question. Mais lui voulait savoir, mais qui m'envoie ? Qui tu es ? Toi qui me parles et qui m'envoie. Quel est ton nom ? Ayam vakesh Moshe shiyodienu akadosh bov et Hashem agadol. Il voulait que Hashem lui donne son nom, le grand nom. Bar Levav, nous allons expliquer bar au sens de barour, du birour, de la clarification. Et pas comme on a l'habitude de dire que c'est le pur, la pureté. On dit que Moshe Rabbeinu s'est clarifié en quelque sorte. Il ne voulait pas rester avec quelque chose qui n'était pas clair. Il ne voulait pas ne pas savoir qui l'envoyait. Il voulait connaître le Créateur qui l'envoyait. C'est ça, Bar Levav. Celui qui peut se monter sur la montagne d'Hachem et s'y tenir, c'est celui qui clarifie les choses. Sur Abraham Avinu, on a dit, sur le même verset, Bar Levav, c'est quoi ? C'est quand Abraham Avinu a dit à Hachem, quand il allait détruire Sdom, il lui a dit « Khalil alecha me'asot kadabar azé » C'est impensable que tu fasses une chose pareille. Tu vas tuer le tzadik avec le rachat. Il y a peut-être des tzadikim à Sdom. C'est comme, en fait, on a un peu l'impression que ici, Abraham Avinu est en train de faire un procès d'intention à Hachem. Les Chazal disent non. Ils disent ça vient de la volonté d'Abraham Avinu d'être dans un monde qui est parfaitement clair. Je ne vais pas le laisser... Pour lui, ce n'était pas clair. Qu'est-ce que ça veut dire, on va détruire Sdom ? Il savait très bien que il est impossible à Shofet Kol Haaretz Lo Ya'aseh Mishpat que le juge du monde entier ne pratique pas la justice. c'est pas possible, je peux pas rester avec cette idée que c'est pas très clair comment ça fonctionne exactement. Et du coup, il va obliger Hachem, en quelque sorte, à aller jusqu'au bout avec lui. Je veux savoir exactement jusqu'où ça va. Par exemple, nous, on reste encore un peu avec une question. Pourquoi il s'est arrêté à 10? Il n'y avait pas 10, mais pourquoi 9? Il y a une Mara qui dit qu'un seul tzadik dans une ville, ça suffit pour sauver la ville. La question qu'il a dit, tu vas tuer le tzadik avec le rachat. S'il y en a un, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Abraham Avinu s'est arrêté à 9? Enfin, donc il n'y avait pas 10, pourquoi il n'est pas descendu dans les unités? Je ne sais pas. C'est parce que... C'est pas notre niveau, c'est vrai. Ce qui nous est donné à nous, c'est, comme il dit, le varer et atzmenu. Nous clarifier ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Le pasouk dit, il y a les mitzvahs de tochacha, ochiar tochiar tamitecha, tu feras la tochacha, tu feras des remontrances à ton prochain. La lachon de tochacha, la chaîne de remontrance partout veut dire clarification des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une remontrance? C'est montrer à quelqu'un ce qu'il en est. Visiblement, tu ne sais pas, tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Je te montre ce qui doit être fait. Ce n'est pas des reproches. Ça n'a rien à voir avec un reproche. Dans un reproche, il y a une position dominante, dominée, etc. Pas ici, pas du tout. Je te rappelle la loi. Je te rappelle la règle. C'est tout. À la limite, je pourrais totalement disparaître si j'arrivais à te glisser la loi. Quand j'étais plus jeune, je pensais que on pourrait imaginer que les gens aient... On leur envoie un message anonyme sur leur ordinateur, sur leur téléphone. Je vois qu'il est en train de faire quelque chose. J'envoie un message anonyme, la halakha. Dans tes situations, voilà la halakha. Ça, c'est une remontrance. C'est pas un reproche, tu fais pas bien, alors il se dit, ouais, l'histoire de la paille, la poutre, etc. Non, rien du tout. Je t'envoie la halakha qui concerne la situation dans laquelle tu es. Mais, et pour que ce soit bien clair, il faut que ce soit anonyme, quoi. Pour qu'il n'y ait pas de problème, il peut le recevoir, c'est la loi. Bon, nous, on est tellement tordus qu'on dit, qu'est-ce qui m'a envoyé ça? Au lieu d'écouter la halakha, il se demande, mais qui me l'a envoyé? Qui est-ce qui sait ce que je suis en train de faire? Il y a une mitzvah de tochacha, qui est une mitzvah, donc de la mitzvah de faire une tochacha à l'autre, c'est aussi à soi-même, n'est-ce pas? C'est de clarifier les choses. Arriver à ce degré de transparence pour soi-même. Et si quelqu'un ne fait pas le travail, alors les autres doivent le faire pour lui, l'aider à le faire. Et lui, il a l'obligation de recevoir cette remontrance. Parce que cette remontrance, c'est une condition sine qua non de ta avoda. Tu ne peux pas servir Hachem si toi, tu ne sais pas qui tu es. Et c'est difficile, très difficile de recevoir les remontrances. C'était déjà difficile. La Gemara, elle dit que Rabbi Tarfon dit en vérité recevoir la Torah. Il n'y avait que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, plus tu lui faisais des remontrances, plus il t'aimait. Si on le dit de Rabbi Akiva, c'est que même en son temps, ce n'était pas courant. Parce que si Monsieur Tout le Monde acceptait aussi les remontrances, on n'aurait pas dit de Rabbi Akiva. On est dans le mois de préparation au Yom Hadin, vers Mishpat. Rosh Hashanah, c'est le jour du Din, du Mishpat. Et le Mishpat, c'est la clarification. Donc, se préparer au Yom Hadin, c'est s'occuper de se clarifier. Clarifier la Torah autant qu'on peut, clarifier ses actions. Essentiellement, c'est pas gratter, etc. Ça, en général, ça donne pas grand chose. Par contre, c'est au fond ne pas faire des choses si on n'a pas vraiment examiné, clarifié exactement qu'est-ce que je suis en train de faire. Pourquoi est-ce que je fais ça? Quel est l'impact de ce que je suis en train de faire? Il y a deux forces en l'homme qui, justement, qui amènent ce brouillard et ce manque de clarté. À part le fait que le Olam Hazé, et comme on l'a dit, ce monde-ci, c'est un monde qui est le monde comparé à la nuit. Ces deux forces, c'est, Chazal dit, c'est Yitzra de Arayot et Yitzra de Avodah Zara. Les deux, le Yitzra de Arayot, des relations sexuelles interdites, et celui de l'idolâtrie. En fait, on va montrer que les deux ont la même racine. La Gemara dans Maseret Sota, Zayin sur la Mishnah, elle décrit la procédure à laquelle on soumet la Sota. La Sota, c'est donc cette femme qu'on soupçonne, son mari a tort ou a raison à soupçonner d'adultère, et ils ont mis en marche une procédure de laquelle la femme pourrait sortir, elle perdrait sa ktouba et divorcerait, et de laquelle l'homme ne peut plus sortir. Donc la femme, elle apporte des corbanotes, il y a toutes sortes de procédures, et à un moment donné, dans la Mishnah, c'est marqué le Kohen Ochez, le Kohen il saisit les vêtements de la femme. Et il tire, et si ça se déchire, ça se déchire. Et Rabbi Yehuda dit, mais si c'était une jeune femme, une belle femme, il ne tire pas, parce que si ça découvre le corps de cette femme, de la même manière, les femmes, elles étaient couvertes, et là, on défaisait le la coiffe, là aussi, si elle a trop beaux cheveux, on ne faisait rien. Et la Gemara, elle demande, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a un problème de hirour, il y a un problème que les Kohanim qui sont là, ils auront des pensées concernant, qui seraient générées par la nudité ou les cheveux de cette femme. Et les Rabbanan, eux, ils ne craignent pas ça, puisque eux, ils ne disent pas que ils ne font pas ce distinguo entre une jeune et belle femme ou bien une femme qui ne le serait pas. On aurait dit, mais pourtant c'est le contraire qu'on entend. On sait très bien que il y a dans la peine de mort, la lapidation, Amar Eli Aish Mechassin Oto Perek Echad Milfanav. Ve'aisha shnei prakim, pipnei shekula erva. Divrei Rabbi Yehuda, chachamim omrim, ha'ish niskal arum, ve'en ha'isha niskelet aruma. Là-bas, il y a un problème comme ça. Le problème, c'est que quand quelqu'un est condamné à la... Ce sont des peines très académiques, mais on va jeter les pierres. En vérité, on jette des pierres tout à la fin. Ce qu'on fait, c'est on met une pierre sur elle, etc., sur la personne, est condamné. La Gemara, elle dit, si tu mets un vêtement, donc elle va mourir, elle va mourir plus tard, donc il y aura une dimension de torture inutile. S'il n'y avait pas de vêtement, elle mourrait immédiatement. Avec le vêtement, ça prolonge sa torture inutilement. Parce qu'elle n'a pas été condamnée à être torturée, elle a été condamnée à mort, point barre, la personne. Et donc, la Gemara, elle rapporte qu'un homme, on couvre sa nudité, donc il y a un endroit à couvrir, et la femme, il y a deux endroits à couvrir. Parce qu'on considère que tout ça, c'est erva, c'est nudité. C'est Rabbi Yehuda. Et les Chachamim disent, non, l'homme, pour ne pas augmenter sa souffrance, on le lapide complètement nu. Par contre, la femme, non. Et donc, on voit que les Chachamim, ils ne dénudent pas la femme. Donc, ils craignent. Pourquoi ? Ils craignent aussi le regard de ceux qui sont là, même si c'est uniquement les exécutants qui doivent être là. Alors, Rabba dit, « Yaha, tamemai, shema tetse mi beddin zakait » Alors Rabbi dit, mais non, c'est... Le problème, c'est comme ça. Cette femme-là, la sota, peut-être qu'il s'avérera qu'elle était une sénéquette, qu'on l'a accusée à tort. Et donc elle va sortir du Beddin. Et donc les jeunes Kohanim, là, qui l'ont vue dénudée, ils vont lui tourner autour. Ici, la femme qu'on est en train de lapider, elle va mourir, donc il n'y aura pas de problème, ils ne vont pas lui tourner autour. Alors la Gemara, elle dit, mais peut-être que d'avoir vu cette femme qu'on a lapidée, dénudée, ça va les exciter et ils vont s'en prendre à d'autres femmes. Alors la Gemara, elle répond, Rava dit, non, on a appris que le Yetzara est nos cholettes et là, bémache et navrote. Le Yetzara, il n'est là que sur les choses qu'on voit, pas sur les choses qu'on voit pas. Et Rashi dit, la raison pour laquelle Rabbi Yehuda dit ce qu'il dit, c'est de craindre qu'effectivement la femme soit, la femme dans la sota, elle soit tzadeket, elle sort du Bendin, il ne lui a rien arrivé évidemment. Et donc, ils vont lui courir après toute sa vie. Ils l'auront vu. Et ça, c'est ce que Rashi explique. Ils ne la laisseront pas en paix. Alors, lui, il a répondu, donc, non, que les Sahara, ils ne s'attaquent qu'aux choses qu'on voit et quand on ne voit pas. Tosfot, il dit, mais c'est Yang Marad en Hagiga qui dit le contraire. La Gemara dit, Arayot ben befanav, ben shelo befanav, nafish yitzrayu. Et Yetzara de Arayot, il est là, qu'on les voit, qu'on ne les voit pas, même si c'est des fantasmes. Et Tosfot dit que, bon, c'est pas complètement contradictoire. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'une fois qu'il a vu, même quand il ne voit plus, alors il continue de fantasmer. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit que ce que Chazal nous dit, de ce qu'un regard peut faire, que d'un regard, il a eu un regard, un moment, il a vu cette personne, et c'est une image qui va l'accompagner toute sa vie. Toute sa vie, il va poursuivre cette femme. Donc, parce qu'il a vu. Ce qu'il n'a pas vu, il n'y a pas de pouvoir, etc. Donc, on voit ici ce qu'un regard, ce qu'un coup d'œil peut faire. Et dans, ça, c'est dans Arayot. Et dans Avodah Zara, là aussi, c'est aussi lié avec ce que les yeux voient, en quelque sorte. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce que l'homme ne voit pas, pour lui, ça n'existe pas. Toute la Avodah Zara, elle est que pour lui, il ne voit pas Hachem, donc ça n'existe pas. Par contre, ce que je vois, ça existe. Le Recanati, sur le kabbaliste italien, donc qui sur le pasouk qui parle de l'épée à double tranchant des anges qui sont devant le Gan Eden pour empêcher Adam et Chava de retourner dans le Gan Eden, flamboyante, c'est là-bas. Il dit, il écrit Kvar he'idu kama pe'amim anashim שנשרפו בברק להט החרב וכולם המעידים היו בעלי הפילוסופיה הקדומה אשר נטו ברוב דבריהם אחר דברי חז"ל ומאז התבטלו ובאו אריסטו ותלמידיו הרשעים ונטו מדרך התורה לגמרי אחר סברתם ומופתיהם הנקראת לבעלי הקבלה אחיזת עיניים. Et a priori, c'est un peu surprenant ce qu'il raconte ici, je vais vous expliquer. Pourquoi le Recanati dans la philosophie d'Aristote, il met en rapport la philosophie d'Aristote avec Achizat Enaim. Ça veut dire, Achizat Enaim, c'est la magie, c'est où on, comment est-ce qu'on dit ça, c'est un tour de magie, c'est quelqu'un qui arrive à tromper les gens, il leur fait voir des choses qui ne sont pas et ne pas voir les choses qui sont. Illusion, un prestidigitateur. Illusionniste. Mais le Ramban écrit à ce sujet-là, quand il clarifie, le Ramban clarifie ce qu'on appelle Seir la Azazel. Vous savez qu'à Kippour, on désignait deux séirim, deux boucs, identiques, aussi identiques que possible, et il y en avait un qui était approché comme Corban, et un autre qu'on envoyait là à Azazel, qui était chargé des péchés d'Israël, comme on dit, et qu'on envoyait, et qu'ensuite on précipitait d'une colline, et il éclatait complètement. Il mourait. Et alors il explique qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce bouc-là, Azazel ? Le Ramban dit Velo chal le faresh. Je ne peux pas expliquer. Ki haynu tzrichim lachsom pi amitchakmim beteva animshachim acharei hayvani asher ikrish kol davar zulati amurgash lo. Je ne peux pas expliquer parce que sinon, il faudrait arriver à faire taire ceux qui suivent Aristote. Qui lui ne niait l'existence de tout ce qu'il n'était pas sensible, de tout ce qu'il ne voyait pas, ne pouvait pas toucher ou voir. Et il répète à un autre endroit, sur le pasouk Torah Tachem Tmima, le Ramban dit Vu Kaacher, Kamu et Evanim, quand les Grecs ont commencé avec leur philosophie, Vehem Amchadash. Ces Grecs-là, c'est un peuple qui a pas de tradition de chokhma, de sagesse. Ils n'ont pas reçu en tradition sagesse. Kamaïch ayadoua, c'est le vieux homme qu'on connaît. Il veut même pas le citer. C'est Aristote toujours. Il dit Ayvani Aharur ou bien le Aïch ayadoua. ולא האמין רק במורגש וחיפש חוכמות מורגשות והכחיש הרוחניות. Celui qui a nié toute la spiritualité. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est que eux pensent qu'Aristote a basé toute sa science sur le sensible, c'est-à-dire ne reconnaître que ce que les yeux voient, en fait. Est-ce que les yeux ne voient pas, pour lui, pour cette, sa science à lui, ça n'existe pas. Et donc là aussi, Ena Yetzer Cholet, Ena Bemache, Ena Vrod, c'est ce même principe. Le Yetzer Hara ne fonctionne que sur ce que les yeux, sur ce que les yeux voient. Et ce Yetzer là dont on parle, ce penchant là, c'est ce qui guide l'homme dans ses réflexions, dans son expérimentation, etc., où il, au cours de laquelle il nie tout ce que ses yeux ne voient pas. Et c'est ça que le Rekalati dit quand il veut dire, quand il compare la philosophie d'Aristote à l'illusionnisme, qui m'a dao achus benaim dafka, parce qu'il dit que toute la science d'Aristote, elle est liée aussi justement à Chizatenaim, à l'illusion de croire que ce qu'on voit est plus réel que d'autres choses. Donc l'Yetzer Hara guide l'homme. D'un côté, il le pousse à ne croire qu'à ce que ses yeux voient, ne penser qu'à ce que ses yeux voient, à poursuivre ce qu'il a vu jusqu'à la fin, en quelque sorte. Et d'un autre côté, ne pas reconnaître ce que ses yeux ne voient pas. Et c'est en ça que le Yetzer Hara d'Avodah Zarah et le Yetzer Hara d'Arayot ont la même racine. Donc, que le monde spirituel, que toute la Rouhaniyut, toute la spiritualité, le Yetzer Hara ne le reconnaisse pas. Bon. Ça, en réalité, on ne s'en rend pas vraiment toujours compte. Mais pourquoi est-ce que on a tellement de difficultés, par exemple, à se concentrer dans la prière? En fait, c'est parce qu'il y a des montagnes de kfira, enfin de négation des valeurs qui couvrent le cœur en quelque sorte. Parce que l'air ambiant, enfin, est plein de ces parcelles de minutes, donc d'apikorsu, de négation des valeurs de la spiritualité, au point que l'homme n'arrive pas, en fait, à enlever tout ça au moment où il prie, et il baigne dans une atmosphère qui ne se prête pas du tout à la prière, parce que c'est une atmosphère qui ne se prête pas du tout à la spiritualité, en fait, à un exercice de spiritualité. Comment est-ce qu'il peut prier en disant Refaenu Hashem Venerafe? On dit Hashem, guéris-nous et on sera vraiment guéri. Ça veut dire c'est l'antibiotique qui guérit. C'est pas... On demande Hashem, Riva Riveinu. De faire la guerre pour nous, de se battre pour nous. C'est l'armée qui se bat. En fait, on est dans un monde où les mots, par exemple, et toute l'atmosphère, tout le monde dans lequel on est, c'est quelque chose qui en fait nous bloque complètement, nous empêche réellement d'entendre, par exemple, ce que nous disons quand on prie sur la refoua ou sur la bataille, sur la guerre, enfin sur... pour ne rien dire effectivement de tout ce monde d'Arayot dans lequel on baigne en permanence, cette image de l'Arayot. Et en fait, les Chachamim, ils étaient beaucoup plus gênés par l'idolâtrie, par la minute, c'est-à-dire la négation des valeurs, beaucoup plus que par le znout, que par les problèmes d'images dénudées, ou enfin toutes ces histoires-là, ou de relations. Enfin, elle rapporte qu'il y avait deux maîtres qui étaient en chemin. Ils sont arrivés à une bifurcation. Exactement, il y avait un endroit où il y avait deux chemins possibles pour arriver là où ils voulaient arriver. Mais il y en a un qui passait, disons, dans un lieu d'Avodah Zara, et un autre qui passait à un lieu de znout, un lieu de débauche. Alors l'un dit à l'autre, on va aller du côté de le chemin qui passe à l'Avodah Zara, puisque le Yetzer Hara d'Avodah Zara, on a déjà supprimé, la virulence du Yetzer Hara d'Avodah Zara a déjà été supprimée. L'autre lui a dit non, on va aller du côté de Znout, en fait, et on va résister en quelque sorte. Alors Tosfot dit, à son place, il commente, Mikan yesh l'ilmod, de là on peut apprendre, Shederech le'achik mipetach avodah zara, kol ma sheyachol, parce que c'est marqué, Al tikrav el petach beta, on parle ici de l'idolâtrie. Ou mukmeleel bavodazara share ayarotsel alechet yoter apitra de bezonot. Puisque il dit il vaut mieux aller du côté des zonot, du côté de la débauche. Donc Tosfot pensait que si ce n'était pas interdit totalement interdit d'aller du côté de la Avodah Zara, on n'aurait pas choisi d'aller du côté du Znout. Et c'est surprenant. Le Yetzer Hara d'Avodah Zara, comme on a vu, il n'existe plus avec sa virulence. Alors que le Yetzer Hara d'Arayot, il est là avec toute sa virulence. Et malgré tout, ils ont peur d'aller du côté de Yetzer Hara, de l'Avodah Zara, même sans virulence, ils ont plus peur que d'aller du côté du Znout avec sa virulence.
C'était Ben Lakish. C'était Ben Lakish, peut-être, par rapport à Yetzer Hara tout à l'heure. Il n'est pas excité de Yetzer Hara.
Peut-être, oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a peut-être plus justement cette virulence de Yetzer Hara d'Avodah Zara. Malgré tout, comme il dit, Asechel Meshuchad la minute. Le Sechel, il est quand même très fortement influencé par la minute. Minute, c'est toutes les idéologies, toutes les idées fausses. Pourquoi ? Parce que ça vient du fait que le Yetzer Hara est cholet, c'est-à-dire le Yetzer Hara, il a un pouvoir uniquement sur les choses qu'on voit. C'est là-dessus que l'homme construit son monde, en fait. Et sa sagesse, son sechel, est entraîné par ce qu'il a vu, en fait. Et Chazal pense que la minute, ces idéologies, etc., elles ont un pouvoir d'attraction, de séduction du Sechel, qui reste, même après la virulence, après qu'on ait enlevé la virulence, en quelque sorte, ça reste encore bien plus fort que les Arayot. Tout ça pour dire que c'est sans avoir réfléchi, sans avoir introduit la dimension de Olam Hazeh et d'Omel Laila, que ce monde-ci est un monde de nuit en quelque sorte. Simplement en réfléchissant sur l'homme lui-même, sur le pouvoir du Yetzara, c'est-à-dire il faut comprendre que c'est un problème de quel regard on porte sur les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que notre regard, dont matériel en quelque sorte, a essentiellement pour effet de cacher la réalité de la spiritualité, de la Rouhaniyut. Au point que on est dans un monde qui nous paraît complètement matériel, sans... On n'est pas capable de... Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est sans arrêt dans un monde où on a presque l'évidence de notre regard sur le monde. Cette évidence-là, elle nous dit, mais il n'y a que ce que tu vois. Toute la Torah est construite, en fait, sur la façon de regarder les choses. La Torah, elle nous dit, comment est-ce qu'il faut regarder? Apprends à voir, parce que... On voit, mais on voit faux. Marqué dans le pasouk, Atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem. Vous avez vu que je vous ai parlé min hashamayim di Hashem. C'est-à-dire, tu dois considérer que tu l'as vu. Voilà. Ata aret al adat ki Hashem hu Elokim enod milvado. Tu as montré qu'Hashem ou à Elohim, et Enod Mivado, il n'y en a pas d'autre. Ou le passou qui dit dans Beit Hanan, Rakishamer le Chaushmo, Nafshecha Meod, Pentishkach Tadvarim Asher Raou Enecha. N'oublie pas tout ce que tu as vu. La Torah, elle est construite sur la façon de voir. Il y a une mitzvah, trois fois par an, d'aller voir. Aller voir et être vu. Mitzvah Tria. Fête de pèlerinage, ça consiste à quoi? Aller voir, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a rien à voir. Tu vas aller voir, qu'est-ce qu'on va aller voir? Tu vas au Beit HaMikdash, quelque chose à voir. C'est marqué, tu vas voir Hachem, mais il n'y a rien à voir. Donc il faut aller apprendre à voir, y compris là où il n'y a pas à voir, au sens matériel du terme. Non, mais c'est pas ça. Ça, c'est pas voir. C'est pas ça qu'il fallait voir. On n'était même pas obligé d'entrer voir les miracles, voir le fonctionnement. La grande partie des choses, on ne les voyait pas. On ne pouvait pas entrer, la plupart des gens. En d'autres termes, la Torah, c'est pas des idées. Il y a aspaklaria, c'est une vision. Meira, qui est éclairée en quelque sorte, comme celle que c'est la Torah de Moshe. Des choses claires, au point que il faut considérer qu'on les voit. La Gemara, elle dit dans la Tfila, au sujet de la prière, Leolam yirei Adam Atzmo batfila keilu shchina keneged enav. L'homme doit se considérer comme s'il était face à la Shrina, face à la présence divine. C'est marqué « Shivite Hashem le Negdi Tamit ». La présence d'Hashem est face à moi en permanence. C'est ça la Emouna Chushit, c'est-à-dire une Emouna, une confiance à laquelle, enfin, qui a à voir avec les sens, au sens voir en fait. Ça, apprendre à voir. Apprendre à voir, mais apprendre à voir la spiritualité, il y a déjà voir, c'est déjà compliqué. Ça, voir même les choses matérielles, il faut. La plupart d'entre nous, on ne voit rien. Pour ce qu'un peintre voit, on ne voit rien. Mais il faut savoir voir. À la limite, il faut aussi savoir ce qu'il faut voir. Ah, tu ne sais pas ce qu'il faut voir.
On dit que les Israéliens, ils ont vu des voies, par exemple.
Ouais, c'est une façon de. Ouais, c'est une façon de. C'est une façon d'acclimater la chose, de dire voilà, cette chose-là, hein, elle est en moi. J'ai acquis cette expérience, en fait.
De la matérialiser.
Oui, mais je ne veux pas matérialiser, justement. Il faut pas la matérialiser. Elle n'est pas matérielle.
Non, mais
je ne vois pas.
C'est emprunté à un autre domaine, disons, je vois ce que tu veux dire.
Oui, ça, c'est, mais aussi, on dit aussi tu entends.
Oui, ça, c'est. On comprend, absolument. C'est pas vrai.
Simple, ne me demandez pas pourquoi.
TGV, Kent, Skype.
Voilà.
C'est tout ça votre identité ?
Oui, tout ça. TGV,
très bien.
Kent, Skype.
Bon, on essaiera de faire ce qu'on peut.
Hein. Vous m'inscriviez, c'est ça ?
Oui, je fais. Je crois qu'il faut que vous demandiez. Vous allez.
Faut que je. D'accord.
Ou sinon, moi, je vous appellerai. Sinon, moi, je vous appellerai.
Vous
vous appellerai. Non, je vais vous appeler. Appelez, que vous m'acceptiez.
Il faut que je sois là.
Oui, il faudra que vous soyez là. Oui, je vous téléphonerai.